Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. Nous nous retrouvons dans notre lecture en liberté pour suivre les aventures des personnages de Antoine Blondin dans L'humeur vagabonde. Ma mère se défend de répondre. Son avocat tousse. Le greffier suspend le cliquetis de sa machine. Je renonce à lui répéter « Mais puisque c'était moi !» Et je garde l'espoir d'avoir fait jaillir seule une source aussitôt tarie. Alors le juge se renverse un peu dans son fauteuil, nous rassemble sous son regard et laisse tomber la phrase qui clôt tous nos entretiens. « Moi, je veux bien admettre que vous avez pris votre fils pour un autre. Mais c'est cet autre qui m'intéresse, et tant que je ne le tiendrai pas, je ne puis admettre votre version et cette histoire. Existe-t-il ? Qui est-il ? Depuis combien de temps observiez-vous son manège ? Voilà les réponses que j'attends. » À ces questions, ma mère se contente de hausser les épaules, mais ses yeux m'enveloppent durablement car elle sait qu'à travers les lèvres sèches du juge, cette fois, c'est moi qui les pose. Avec moi, la France entière se demandait maintenant si Denise avait eu un amant. Chaque soir, à l'heure des journaux, l'homme d'affaires blotti derrière son chauffeur, la dactylo pressée par son voisin, le commis voyageur attablé devant sa demi-bouteille, délaissait les cours de la bourse, le courrier du cœur, la page sportive, parce que la curiosité les poignait par priorité de savoir si l'on avait découvert quelque chose. Une commission rogatoire avait pris en charge l'inconnu descendu le même soir que moi à la gare de Mauvezac. On le repéra dans un hameau des environs où il essayait de placer des carillons en rase campagne. Comme il était par-dessus le marché interdit de séjour, on l'arrêta. J'ai souvent repensé à ce marchand de carillons, menu crevette, prise par mégarde au filet d'un destin étranger. Si j'avais trouvé la tombe de Monsieur Amouroux. Peut-être nos chaumières retentiraient-elles joyeusement aujourd'hui, la sienne la première. Pour le reste, notre pays produisait plus d'alcool que d'amants et l'on eut vite fait le tour. Ils étaient pour la plupart occupés à leur glorieuse fonction. Lorsqu'on nous confrontait, c'était moi qui perdais la face. Je ne tenais pas le beau rôle. Le village accueillait en général très mal les enquêteurs et s'insurgeait contre ces visites qui portaient atteinte aux souvenirs de Denise. J'avais à chaque instant l'occasion d'apprécier en quelle estime on tenait sa loyauté, son courage, son ardeur à la tâche. Et bien qu'on me regardât de travers, j'en tirais assurance et réconfort. Ma mère continuait de nier que son fils eût été un mari trompé. Au juge qui la pressait, elle disait d'une voix très douce « Vous avez une victime et un assassin. Mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus ?»« Un mobile, madame. On ne tue pas sur un tel malentendu. Allons, dites-moi depuis quand vous veniez vous embusquer derrière cette haie et quel soupçon déterminant vous y poussait. » Je venais rapporter un sécateur, répétait inlassablement ma mère. Je n'avais que quelques craintes nullement fondées, la suite l'a prouvé. et le monde entier apprenait docilement ce qu'était un sécateur. Alors on se retournait du côté de Denise, si discrète. On fouillait son passé, ses lettres, ses trésors. Et je découvrais, avec 5 millions de lecteurs, qu'une femme peut être à la fois solide et frivole, industrieuse et distraite, fidèle et aventureuse. Je ne savais plus que penser. Denise, qui ne s'expliquait déjà pas beaucoup de son vivant, ne s'expliquerait plus jamais. On ne parle pas assez quand il en est temps, et les âmes se boucanent côte à côte. Elle avait emporté la clé de ce sourire ébauché que j'avais vu se former sur ses traits et dont j'ignorerais toujours s'il signifiait l'aube ou le crépuscule, si même il m'était destiné. Certains jours, j'étais tout près de me ranger aux raisons des magistrats. Leur appétit de la chasse n'était qu'indifférence auprès de ma passion. Braconnant en marge de l'enquête, je harcelais ma mère. « Parle, je supporterai la vérité. C'est pour la connaître que j'étais revenu. J'ai cru savoir, mais il n'y a que toi maintenant qui puisse me renseigner. » J'ai dit tout ce que j'avais à dire, je ne peux pas te soulager mieux. Il y a le reste. Si tu veux, cela demeurera entre nous. Mais cette vieille prisonnière dont on n'imaginait que trop la solitude, je ne la rencontrais jamais qu'accompagnée, et ce m'était un double drame que de la savoir si seule et de la voir si mal. Elle hochait la tête, prenait à témoin le gardien ou son avocat qui se tenait dans un coin du parloir. Il n'y a pas de reste. Denise avait trouvé quelqu'un d'autre. Quand tu as senti à quel point j'en souffrirais, tu as pris les devants, c'est bien cela. Elle avait un geste comme pour dire « à quoi bon insister ?» et je m'en allais, persuadé qu'elle n'avouait pas pour m'éviter une peine désormais inutile et cette atteinte à mon honneur, sur lequel elle n'avait jamais transigé. L'instant suivant, je me disais tout le contraire et m'efforçais d'apprivoiser une autre vérité plus douce, celle-ci, mais tout aussi amère. On avait tué la femme qui m'aimait. Je ne pouvais séjourner toute la semaine à Angoulême. Rentrant presque chaque soir à Mauvezac pour m'occuper un peu des enfants que la femme de Gustave avait mélangés aux siens, j'hésitais entre ces deux maisons également vides qui m'attendaient. Chacune me semblait la mienne, et je me demandais si ce n'était pas trahir la cause commune de notre clan que d'élire l'une ou l'autre. Je m'étais résolu à prendre pension à l'auberge. Quand j'entrais dans la salle, l'aubergiste coupait la radio, de peur que des échos de l'affaire ne vinssent alourdir l'atmosphère déjà pesante qui régnait d'une table à l'autre. La plupart des commensaux avaient plus ou moins bavardé avec les journalistes qui s'abattaient sur Mauvesac, activant le commerce et poussant à la consommation, ce dont le patron me savait gré, ne sachant qui remercier d'autre. Des parties s'étaient formées sur une parole prononcée le plus souvent à la légère, qu'on étayait ensuite jusqu'à ce qu'elle se cristallisât en opinion. Aucun n'était favorable à la thèse de ma mère. L'ironie du sort était une denrée irrecevable chez des êtres habitués à ne récolter que ce qu'ils ont semé. Je dînais à l'écart. Puis je montais dans l'unique chambre mansardée, tendue de cretonnes fraîches, qui donnait sur la campagne. Je respirais un moment l'air de ces prairies où mon troupeau s'était vite éparpillé. D'en bas montaient des rubeurs contrastées. C'était l'heure où les femmes rejoignaient leurs maris à la taverne et, loin de les contraindre à rentrer, relançaient la discussion éperdue de nos mérites. Mes mauvais compagnons eux-mêmes m'avaient abandonné, préférant cotiser à cette partie de pile ou face qui s'organisait spontanément dans tout le pays et dont l'enjeu était la dignité d'autres êtres humains et leur liberté. C'est de la bouche de l'un d'eux que je ne pus identifier dans le brouhaha que j'entendis tomber cette alternative. Ou il était cocu, ou il est complice. Et un reste de copinage paraissait le faire pencher vers le second terme, plus honorable à son sens. Tout d'abord, je ne pris pas garde à la menace incluse dans cette proposition. Je recevais alors un courrier de sympathie émanant des quatre points cardinaux et même de l'étranger que je ne pouvais me défendre de lire avec une répugnance complaisante, lettre de femme qui m'assurait d'une âme sœur, d'astrologue qui me fourbissait de resplendissantes conjonctures, d'étudiantes canadiennes qui me suppliaient de venir leur faire une conférence la prochaine fois que je passerai à Montréal. Je me sentais des amis dans le monde, bien que j'eusse dû le payer le prix fort. Le commissaire divisionnaire qui se présenta le lendemain matin à l'auberge était plutôt mon ennemi. Je le reçus dans la petite chambre de Cretonne, surpris par mes habitudes intimes, confus d'un rien, attachant, dans les premiers moments de la conversation, autant d'importance à tout mon petit attirail assez révélateur de célibataire à l'abandon qu'aux questions mêmes qu'il me posait. Il paraissait au contraire ravi de ce désordre, dégustant l'air. Enfin, vous voilà bien seul, et pour longtemps peut-être. Vous vous entendiez rudement avec votre mère. Vous vous entendez encore d'ailleurs, c'est normal. Je respecte cette solidarité. Elle vient de loin. Il y a des racines biologiques, je dirais. Biologique, fis-je. C'est pourquoi il est difficile d'aller contre sous peine d'attenter à quelque chose de foncièrement lié à l'espèce. Je vous demande donc de comprendre que je puis être amené à avancer des propositions qui vous paraîtront énormes ou même outrageantes. Mais il nous faut contourner le mur de silence derrière lequel vous vous enfermez, votre mère et vous, et peut-être l'enfoncer un peu par endroits. Je vous parle ainsi, je vous démasque mes batteries parce que je sais que vous êtes un garçon intelligent. Si, si, d'une intelligence supérieure au niveau. Son regard à travers la fenêtre chercha à situer mon intelligence par rapport au marronnier. Je me demandais où voulait en venir ce policier qui préparait de la sorte son champ opératoire et enfilait de tels gants. Il poursuivit. Je pourrais vous dire brutalement, comme certains de mes sous-ordres, « Allez, mets-toi à table !» Non, je vous demande simplement quel motif avait votre mère de supprimer votre femme en dehors de cette vendetta spectaculaire, un peu corse pour nos régions, ne trouvez-vous pas ? Et qui s'avérait par surcroît sans objet, selon l'aveu de la coupable. Or moi, j'ai besoin d'établir une préméditation justifiée. Si votre femme n'avait pas d'amant, pourquoi l'a-t-on tué ? Les pires suppositions sont permises.
La mélancolie qui vient, qui coule, qui vous enfonce tout doucement, qui vous enroule, qui vous blottit, qui vous protège des ouragans. La mélancolie qui vient, qui cogne à la porte si souvent que l'on s'y abandonne. Que l'on se roule même dedans, la mélancolie de nos meilleures années, nos compagnes, nos conneries ne doivent pas un jour s'oublier. Se mélange mon ange, s'en mêle dans nos vies de petits blancs, dans tous ces souvenirs d'école et de tout le tremblement. La mélancolie comme une anomalie qui démolit tout doucement, qui vous demande, qui vous explique qu'on n'est plus des enfants. La mélancolie qui coule de source, qui colle au corps et qui vous crée d'emmerdement. mélancolie, c'est communiste. Tout le monde y a droit de temps en temps. La mélancolie n'est pas capitaliste. C'est même gratuit pour les perdants. La mélancolie, c'est pacifiste. On ne lui rentre jamais dedans. La mélancolie, oh tu sais, ça existe. Elle se prend même avec des gants. La mélancolie, c'est pour les syndicalistes. Il faut juste la carte de permanent. La mélancolie, c'est communiste. Tout le monde y a droit de temps en temps. La mélancolie n'est pas capitaliste. C'est même gratuit pour les perdants. La mélancolie, c'est pacifiste. On lui rentre jamais dedans.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Antoine Blondin, l'humeur vagabonde. Je m'insurgeai. Il me rétorqua en citant 20 témoignages recueillis dans le village, selon lesquels Denise et ma mère étaient à couteau tiré, se disputant l'empire sur la chiffe que j'étais devenue. Là-dessus, dit-il, vous vous en allez, vous quittez tout, vous sautez en marche. On peut penser que c'est pour fuir cette galère, éviter de prendre parti pour l'une ou l'autre de ces femmes, reconquérir d'abord en terre étrangère le droit de leur imposer vos décisions de chef de famille. Le commissaire ouvrit sa serviette, posa sur le lit un certain nombre de fiches où j'aperçus pêle-mêle du papier à en tête et du papier timbré. Je m'attardai à cette vision possible d'un jeune chef de famille allant chercher dans la bataille les prestiges du pacificateur. Au lieu de cela, reprit le commissaire avec une fermeté soudaine, comme le voltigeur qui reprend appui sur un sol plus solide, vous passez tranquillement une huitaine de jours dans un bordel. Oui, mon vieux, nous avons la note et elle est salée. Vous vous accoquinez avec une négresse. » Là, nous avons bien retrouvé l'affiche, mais elle est fausse. « Vous ne voulez pas nous dire son nom ?»«
Je l'ignore. »
« C'est votre droit. Enfin, vous accomplissez je ne sais quelle galipette dans un cimetière qui vous conduisent au poste et oblige la police à prendre des renseignements ici. »
Il respira, changea de vitesse, adopta une démultiplication plus humaine.
Ces choses-là se savent. Elles ne font pas bonne impression. Alors l'ombre portée de nos moindres actes s'amplifie. Moi, je ne suis pas contre un peu de bringue de temps en temps, mais il faut être irréprochable, sans quoi les langues se délient, l'opinion fermente. On dit « ces gens-là étaient des nomades sous leur faux col, ils ne songeaient qu'à liquider tout, qu'à croquer le fond avec le revenu ».
Vous étiez marié sous le régime de la communauté de biens, hein ? Cette petite exploitation, vous n'en disposiez pas tout seul, vous n'en disposiez même pas du tout. »
Il se rapprocha de moi, la main tendue comme un plateau pour que j'y dépose la solution.
« Il y a aussi ce coup de téléphone, la veille de votre retour. Dans quel but ?»
À la poste, quelqu'un a entendu votre femme vous demander s'il vous fallait encore de l'argent, vous suppliant d'être plus raisonnable. Allons, mon vieux, dites-moi franchement pourquoi vous êtes revenu. »
Denise me suppliait d'être plus raisonnable parce que je lui demandais comment il était habillé et comment était le ciel. Elle trouvait que cela ne valait pas un dialogue à 200 francs la minute, alors je suis rentré pour le savoir par moi-même.
Le commissaire sourit. Libre à vous de ne pas vouloir regarder en face la gravité de votre cas. Préférez-vous me dire pourquoi vous étiez parti ?
Comment lui dire que de sourds ressorts se détendent dès que les trains recommencent à rouler ? Comment lui expliquer que la paix rend l'homme fou ? Que les femmes se mettent brusquement à fumer, les idiots à faire de la politique ? Les rêveurs à s'ébranler. Je lui dis, j'ai voulu connaître d'autres cieux, me rapprocher du foyer où se font les échanges humains. J'en ai été longtemps empêché par la guerre. Sitôt que j'ai entrevu l'ouverture, j'ai filé. Sans avenir, sans situation, sans but.
C'est ici que je n'avais plus d'avenir. Les saisons se ressemblent. En tout cas, ce voyage, lui, pourrait diablement ressembler à un alibi, rien qu'en donnant un petit coup de pouce.
Quelques heures plus tard, les premiers éclairs des photographes m'atteignirent comme un jet de pierre. En première page des journaux, la génitrix de Mauvezac cédait le pas à l'affaire Laborie. On m'y présentait avec circonspection, sous les traits d'un débauché, et l'éventualité s'y trouvait soulevée d'un crime crapuleux. Sur la place, mes concitoyens s'aggloméraient autour des feuilles en grommelant. La presse et l'opinion se tournaient contre moi, et je n'arrivais plus à démêler laquelle de ces deux grandes machines alimentait les poisons de l'autre. Le soir même, Marcel Bingeau me télégraphia qu'il s'intéressait à moi et se tenait à ma disposition. Il débarqua le lendemain, allé comme au plus beau jour. Il me dit « J'ai ma robe dans le coffre, ainsi nous sommes parés. » Le brigadier de gendarmerie Garcia roule dans ma direction des yeux enamourés. Je vois ses bras courtauds où brillent deux sardines se tendre vers moi. Sous sa moustache de rue, ses lèvres esquissent le mot « chéri » qui n'est pas prévu au programme. Puis il s'effondre, geignant et soufflant dans un lourd fracas de godillot.
« À toi de jouer, Lalanne, » dit-il en se relevant. « Moi, je ne veux plus faire ce truc-là, je suis trop gros. »
Son collègue, Lalanne,
Un jeune qui a connu l'Indochine prend sa place, qui est celle de Denise dans la reconstitution du crime. Lalanne, lui, n'en remet pas. Il me scrute froidement, avec mépris. Il doit avoir sa petite idée sur la question. Ainsi, chacun d'eux se plaît-il à interpréter les derniers moments de Denise. Lalanne n'a pas d'imagination. Son improvisation, très sèche, reflète déjà le reproche et l'appréhension du coup de feu. Dehors, quelqu'un fait « pan » et il se laisse tomber sans conviction, comme à regret. Vous devez avancer un peu plus dans le champ jusqu'au signe tracé à la craie, me crie le commissaire. Avec le juge d'instruction, ils se tiennent de l'autre côté de la baie vitrée, au milieu d'un état-major de policiers et de journalistes. On dirait du tournage d'un film. À distance respectueuse, un rang de curieux a envahi notre jardin et dévisage ma mère, vedette à part entière du spectacle, qu'on a amenée en voiture, accompagnée d'un médecin. Elle se tient, l'arme au pied, très pâle. Par deux fois, elle s'est avérée incapable d'effectuer le simulacre qu'on exigeait d'elle. Ses forces déclinent de jour en jour. Marcel Bingeau, très affairé, s'entretient avec son défenseur. À la dernière phrase du commissaire, il se précipite. Permettez, nous ne sommes pas ici pour prendre des photographies. Ce problème de la situation qu'occupait Benoît Laborie dans le champ visuel de sa mère, c'est précisément toute la question. Je vous en prie, maître, fait le juge d'instruction. Vous n'avez pas encore de client, que je sache. Marcel a un regard presque concupiscent vers le fourgon cellulaire qu'on a embossé un peu plus loin sur la route, pour le cas où. Le juge veut corriger cette fâcheuse impression. Il me demande aussi aimablement que possible si ça va. Ça va, comme quelqu'un qui tente de déchiffrer sur la face d'un gendarme si sa femme l'aimait au moment de mourir. Depuis 3 mois que j'ai voulu vivre ma vie, je ne me suis heurté qu'à des murs. Je sais que je suis déjà dans une prison, alors celle-ci ou une autre. Seul m'importe encore la santé de ma mère, l'espoir du loisir que j'aurai peut-être un jour de capter cet amour sauvage qu'elle m'a témoigné et de le convertir à la douceur en lui répondant davantage, et aussi cette façon qu'ont les brutes d'ici de chérir Denise, si vraie, si juste, que je me demande parfois si nous ne sommes pas effectivement coupables d'avoir habité une planète différente. Plus tard, comme le cortège des voitures reprend la route d'Angoulême, Marcel Bingeau me dit « Puisqu'on te fiche la paix pour l'instant, pourquoi ne montrais-tu pas t'installer un peu chez nous ? Les gens sont dressés contre vous et il vaut mieux que tu ne restes pas ici. Tes enfants sont admirablement soignés et la seule chose que tu puisses faire pour eux, c'est de te secouer pour leur conserver un père en état de marche. » Ma mère, nous en avons parlé avec son avocat. Elle va être transférée dans un hôpital pénitentiaire où elle attendra le procès, si aucun fait nouveau n'intervient. Son vœu formel est que tu t'éloignes un peu de tout cela en ce moment. Marcel, comment vois-tu le procès ? Tante Juliette attirée, bon. Ça, on ne peut rien y changer. Moi, je plaiderai le passionnel, évidemment, mais j'ai peur que le jury ne l'entende pas de cette oreille. Ces paysans sont trop rompus aux mécanismes des intérêts, aux violentes passions qu'ils suscitent pour ne pas rapporter à eux la cause dont ils ont à connaître. En ce cas, il m'étonnerait que tu ne sois pas mis dans le coup. Il faut avouer qu'il y a matière. Pour l'opinion, mon petit, pour l'opinion seulement, il va de soi. Quant à votre histoire de méprise, elle ne tient pas debout. Je le considère à la dérobée. L'arrondi du bras, souple et ferme sur le volant, la patte superbe de la joue, la précision de l'œil ne le range pas parmi ceux qui se cognent contre les murs. Je lui dis avec une trace de sarcasme, c'est gentil à toi d'offrir l'hospitalité à un suspect, mais Myriam, eh ben mon vieux, Tu me croiras si tu veux, mais c'est elle qui a eu cette idée. » Cette nouvelle qui m'aurait fait bondir le cœur il y a si peu de temps ne provoque qu'une réaction imperceptible comme d'une lampe témoin. Il y a toujours du courant, mais on ne s'en sert pas. C'est la bonté des êtres qui m'est sensible aujourd'hui plus que leur charme, ou plutôt c'est leur seul charme. Je n'attends qu'une poignée de main. Je n'aurais pas cru qu'elle viendrait de Myriam. Ainsi de certaines statuettes peintes, on les croit en porcelaine, elles sont en or. « Tu verras, me dit Marcel, tu vas connaître des tas de gens amusants, enfin des gens qui te distrairont un peu. » Ce Marcel nouveau, dans sa sollicitude nuancée, est-il un cousin méconnu ou l'avocat attentif à son gibier, sa chose, son cas ? Avec un peu de chance, nous pourrons peut-être faire un saut à Houlgat avant Noël. Tu ne trouves pas que l'automne est merveilleusement doux ? Cette fois, ce n'est sûrement pas au client qu'il s'adresse. Nous avons donc terminé pour ce soir la suite de ce roman de Antoine Blondin, L'humeur vagabonde, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.